C'est le débat éco du vendredi. Thomas Piketty, Dominique Seux, bonjour.
Bonjour.
La question cette semaine n'est pas nouvelle, mais elle est cruciale. L'État peut-il tout ? Aujourd'hui, précisément, que peut l'État face à la fermeture annoncée cette semaine de l'équipementier automobile Bridgestone à Béthune, avec 863 emplois directs menacés dans une région sinistrée ? Les réactions de colère sont unanimes. On n'a pas entendu de voix discordante, mais au-delà de ces coups de menton, que peut-il se passer selon vous, Thomas Piketty ?
Moi, je pense que cette affaire montre à quel point il y a une nécessité aujourd'hui de réarmer la puissance publique, les salariés, les collectivités locales face à ce type de comportement. C'est-à-dire, il y a sur plein de plans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système de circulation des investissements internationaux qui permet en fait à des personnes de venir investir, des groupes de venir investir, de récupérer des aides sans contrepartie, de faire le maximum de bénéfices, et puis après de repartir en cliquant sur un bouton. On ne sait pas où l'argent est passé, on ne sait pas au départ d'où l'argent vient, on ne sait pas qui possède les investissements qui sont faits. Donc il y a un manque de transparence, il y a un manque de pouvoir pour les salariés. Moi, je pense qu'on devrait avoir la moitié des représentants dans les conseils d'administration qui devraient être élus par les salariés. Ça permettrait, si une collectivité locale choisit également de prendre une participation minoritaire dans une entreprise, de faire basculer la majorité et d'avoir des projets d'investissement. Parce que là, dans le cas de Bridgestone, ce que tout le monde dit, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie tentative pour monter en gamme. Si on est resté sur des pneus qui n'étaient pas concurrentiels, et c'est ça qui a manqué. Et finalement, dernier point, on ne peut pas attendre d'avoir l'unanimité au niveau européen pour lutter contre le dumping fiscal, social, écologique. Parce que quand on parle de compétitivité, mais avec des pays qui ne vont pas avoir les régulations environnementales, qui ne vont pas avoir d'impôts sur les bénéfices des sociétés, ça ne peut pas continuer. Donc là, on a besoin d'un protectionnisme incitatif qui permette de remonter vers le haut ce type de normes. Sinon, on est complètement dans une concurrence déloyale.
Dominique Seux.
On peut pas forcer une entreprise japonaise à venir s'installer en France comme on peut pas la forcer à rester. De faire beaucoup de bruit comme le gouvernement le fait et à peu près tout ce que le pays compte de voix, ça va aboutir à quelque chose qui est, il faudra que cet équipementier japonais mette beaucoup d'argent sur la table. Et il mettra sans doute beaucoup d'argent sur la table. Est-ce que ça peut le faire rester ? C'est pas totalement impossible parce qu'il y a un cas en fait qui est pas tellement mentionné depuis 48 heures qui est que en 2013 Bridgestone avait un projet de fermeture d'une usine à Bari en Italie, c'est dans la botte, et il y avait à peu près le même nombre d'emplois et en fait il y a eu une bagarre politique, il est resté à 60. Donc je pense que c'est ça que à la fois les syndicats sur place et le gouvernement ont en tête. Cela étant, une fois qu'on a dit ça, ça va être très difficile parce que Bridgestone, il croule pas sous l'argent. Son résultat a baissé, j'ai regardé, hein, le résultat a baissé de 87% au premier semestre. Le chiffre d'affaires a baissé de 22% au niveau mondial. C'est un équipementier qui est un peu coincé entre le haut de gamme.
En 2020, dans ce secteur, c'est voilà,
oui, mais après,
normal,
après vous pouvez.
Non, mais là,
dire
ils utilisent
ou pas
ça comme une excuse.
Mais c'est pas totalement faux non plus.
Bah, c'est pas faux, mais comme tout le monde, c'est-à-dire que là, il y a rien de particulier à Bridgestone. C'est tout le secteur est dans cette situation-là. Donc là, c'est dans les années précédentes qu'il aurait fallu faire les investissements. Ouais. Et surtout, il faut voir quelles règles on change pour l'avenir, parce que au-delà des coups de menton là du gouvernement de Xavier Bertrand, après, il y a des propositions pour changer les règles, par exemple, qui ont été faites par des responsables syndicaux, pour qu'il y ait l'approbation des comités économiques et sociaux d'entreprise pour utiliser l'argent qui va être déversé sur les entreprises. Et là, j'entends pas le gouvernement a l'air de dire non, faut les laisser prendre l'argent et décider tout seul, sauf que c'est exactement ce qu'a fait Bridgestone, de prendre l'argent du CICE et puis de ne pas investir.
Donc là, il faut changer les règles
si on veut que ça ne se reproduise pas.
Bien sûr qu'on peut imaginer un système totalement différent où le monde serait totalement différent, mais pratiquement, concrètement, à court terme, d'abord, non, moi, ce qui me scandalise, c'est la manière ça s'est passé quand même. Et on voit bien la différence entre, puisque si j'ai bien compris, des salariés l'ont appris quasiment en direct
sur
par la radio, sur les médias, sans qu'il y ait eu depuis quelques semaines un peu une, j'allais pas dire une préparation psychologique, ça n'a aucun sens, parce que on ne souhaite à personne d'apprendre la perte de son emploi comme ça, et évidemment de perdre son emploi comme ça. C'est la première chose à dire. Mais une fois qu'on a dit le monde devrait être complètement différent, est-ce que très concrètement des choses peuvent être faites ? Vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, qui est la clé, je crois, c'est l'attitude des pays européens face à la concurrence chinoise. C'est le sujet, parce que en termes de compétitivité, la France a fait quand même pas mal le job ces dernières années, notamment avec le CICE, bon, qui n'est plus le CICE, qui sont des baisses de charges. Mais sur le coût du travail, globalement, des efforts considérables ont été faits. En revanche, que le discours européen soit toujours le même, en tout cas dans les faits, vis-à-vis de la concurrence chinoise, pose un problème. Alors après, il y a des choses très concrètes à faire. Face aux Chinois, aux pneus chinois bas de gamme, parce que on sait bien ce qui se passe. C'est-à-dire que les pneus chinois sont vendus peut-être à prix cassé, sans doute à prix cassé, en Europe, parce qu'ils sont subventionnés à 100% en Chine. Et donc, il n'y a pas la prise en compte à la fois des dégâts environnementaux, du coût social, et donc le problème est là. Alors après, on peut être ou subtil ou lourd. Si on est subtil, on regarde les pneus chinois, on dit, vous êtes bien. Non, je parle de... Vous pouvez dire, les pneus chinois, on regarde si techniquement, l'usure, s'ils ont les qualités techniques pour la sécurité, et on leur dit, écoutez les amis, ça va pas. Et si on est un peu plus sophistiqué, on dit, on commence à regarder des droits de douane. Et je pense qu'il faut y arriver.
Donc ça se joue au niveau européen.
Mais je ne crois pas que ce soit sur les contreparties.
Oui, au niveau européen,
non, oui,
Thomas
oui, Piketty. Oui et non, bien sûr, c'est toujours mieux au niveau européen, mais on ne peut pas attendre, vu comment fonctionne l'Union européenne, c'est-à-dire le plus souvent à l'unanimité, on ne peut pas attendre d'avoir l'unanimité pour agir. Et donc moi, je veux dire quand même très clairement que quand on fait du commerce avec des pays qui n'appliquent pas du tout de taxes carbone, de régulation environnementale, qui de même n'ont pas d'impôts sur les sociétés ou des taux très faibles d'impôts sur les bénéfices des sociétés, il faut qu'il y ait une contrepartie de taxes carbone aux frontières, mais aussi de taxes contre le dumping fiscal aux frontières. Et ça, on ne peut pas attendre d'avoir l'unanimité au niveau européen. C'est-à-dire qu'on a fixé des règles dans le passé qui, pour certaines, sont des erreurs. C'est-à-dire que la libre circulation des capitaux sans aucune contrepartie en termes de transparence sur les comptes. Parce que parfois, dans un cas comme Bridgestone, ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, les salariés, personne en fait, ne sait vraiment très bien ce qui a été mis, ce qui a été retiré, ce qui va être ressorti, d'où vient vraiment l'argent. Donc il y a un manque de transparence, de régulation. C'est pas parce qu'on a fait des erreurs sur certains traités sur la libre circulation des capitaux sans aucune transparence et sans aucune
lutte sur le dumping. Ça me paraît quand même assez clair qu'il est difficile de mettre derrière chaque entrepreneur, fût-il pas très sympathique comme Bridgestone apparemment, soit un contrôleur du travail, un inspecteur du travail.
Plus de droits pour les salariés, c'est possible. D'ailleurs, ça existe, vous savez, dans certains pays européens, on a certains de nos voisins où il y a entre un tiers et la moitié des sièges au conseil d'administration pour les représentants des salariés. Et on en parle depuis des années. Pourquoi on ne le fait pas en France?
Je vais vous répondre tout simplement en vous disant que Continental, en Allemagne, a annoncé 1600 suppressions d'emplois et une usine à Aix-la-Chapelle, et en fait, pourtant, dans les conseils d'administration, il y a des salariés.
Oui, non, mais ça suffit pas. Si une collectivité locale, par exemple, dans les Hauts-de-France, avait voulu s'investir sur un projet en plus des droits de vote qui vont aux salariés, on peut construire des majorités différentes. C'est-à-dire, on a besoin, on peut pas tout avoir sur les salariés, tout avoir sur les actionnaires. On a aussi les collectivités locales. Voilà, il faut construire des gouvernances différentes.
La seule bonne nouvelle de l'affaire, c'est qu'à 16 kilomètres exactement de l'endroit de l'usine, il y a un grand projet industriel qui est en train de se faire. C'est le projet de l'usine de batteries électriques entre Saft, le français, Total, et PSA. Et donc cette usine va ouvrir, donc il y aura peut-être des transferts possibles. Ça veut dire que, je vais pas vous faire le coup de l'économie, c'est darwinien, il y en a qui se créent, il y en a qui meurent, mais c'est quand même un peu vrai. Il y a ce projet, il y a un quart d'heure.
Oui, enfin bon, c'est quand même toujours un peu les mêmes. Quand vous disiez tout à l'heure, la France a fait le job, le CICE, c'est surtout les bénéfices qui ont fait le job et qui dans un certain nombre de cas comme celui-là ont pu s'accroître. Et puis c'est toujours un peu les mêmes qui perdent
sans au sens. Entre 2016 et 2019, il y a eu le million d'emplois créés quand même. Vous vous souvenez du PINS?
Qu'ont à peine récupéré les destructions de 2008 à 2014. C'est-à-dire avec tout ça, au bout de 10 ans, on est revenu au point d'avant la crise de 2008. Donc effectivement, chapeau l'artiste.
Alors, je voudrais qu'on en vienne à un deuxième sujet. Ce matin, oui, il est 8h, il est 7h55, ça avance. La Convention citoyenne sur le climat avait préconisé la création d'une éco-contribution applicable au transport aérien pour lutter contre le réchauffement climatique. Emmanuel Macron s'était engagé à reprendre le travail des 150 citoyens, mais le gouvernement a rejeté cette proposition hier par la voix de Bruno Le Maire. Qui a tort, qui a raison? Thomas Piketty, pour commencer.
Bah, donc, la situation actuellement, c'est que si vous prenez votre mobylette ou votre voiture pour aller au travail, vous payez des impôts très lourds sur les carburants que vous utilisez, en partie du fait des conséquences en termes d'émissions carbone, mais aussi sur la pollution en général. Vous prenez l'avion, le kérosène n'est pas du tout imposé au même niveau. Et donc, la question, c'est est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pouvez construire un consensus dans un pays sur une politique environnementale en taxant davantage les gens qui prennent leur mobylette et leur voiture tous les jours que ceux qui prennent l'avion pour partir en week-end ou en voyage d'affaires? Moi, je pense que c'est quand même compliqué. Et donc, l'attitude du gouvernement qui est de dire « Ah, mais c'est pas le moment, on en parlera plus tard », bon, il faut toujours en parler plus tard.
Mais c'est pas le moment.
Donc, non, mais moi, je pense qu'on
donc c'est le moment
un calendrier.
Oui, je pense, oui, là, je pense qu'il 2021, faut s'engager. En 2021, il faut augmenter, je pense qu'il faut appliquer cette taxe de 4 milliards d'euros.
Il faut, oui, alors après, ça peut être étalé sur plusieurs années, mais il faut commencer dès maintenant. Il faut commencer dès maintenant. Et moi, j'irai plus loin. C'est-à-dire, je pense qu'on a besoin, je l'ai déjà dit sur cette antenne, d'une carte carbone individuelle permettant de mettre à contribution les uns les autres en fonction de leur volume d'émissions carbone. C'est-à-dire, si on veut construire un sens de justice environnementale et climatique, on ne peut pas toujours retomber sur les mêmes, ceux qui ont des émissions moins déraisonnables, en tout cas, que ceux qui prennent l'avion, qui ont des 4x4, etc., etc.
C'est le moment, dit Thomas Piketty, parce que sinon, ce sera jamais le moment, Dominique.
Non, c'est pas le moment. À moyen terme, il est clair qu'il faut faire quelque chose. Et il faut probablement augmenter le prix des billets d'avion. Il faut savoir pour qui, pour quelle catégorie de population. L'idée d'un prix minimum qui a été évoqué lors de la réunion de cette semaine par le syndicat des pilotes, ou je ne sais plus lequel, me paraît une bonne idée. Mais la taxe telle qu'elle serait créée par la proposition de la Convention climat, d'après les prévisions, ça détruirait 150 000 emplois. Le trafic aérien est à moins 80%. Hier, savez-vous combien il y a eu de passagers qui sont passés par Roissy, ou avant-hier?
Dites-nous.
40 000 au lieu de 200 000. Donc on est vraiment dans un secteur absolument sinistré. Il y a des centaines de PME.
Mais ça, c'est pas du fait du prix des billets. Vous savez, dès que les aéroports ouvriront, vous allez voir que les gens vont se précipiter sur le vol. Et c'est pas parce que les classes affaires seront 200 euros plus chères. Vous savez, vu les moyens qu'il y a en face, les gens reprendront l'avion, d'ailleurs, sans doute beaucoup trop. Donc, votre inquiétude sur, oh là là, la classe affaires va devenir trop chère. Puis d'abord, il peut y avoir moins de classes à faire dans les avions où tout le monde ait un peu plus de place et qu'il y ait un peu moins, qu'on soit pas tous sur les genoux les uns des autres pendant qu'il y en a d'autres à l'avant.
Non, mais l'idée,
c'est aussi tout ça, ça mérite quand même d'être discuté.
Non,
donc vous inquiétez pas sur le prix des classes à faire.
De donner d'un côté 7 milliards d'euros à Air France et en même temps de reprendre 4 milliards, c'est un peu une tuyauterie un petit peu curieuse. Qu'à moyen terme,
je suis
que dans quelques années,
avec,
une programmation, qu'on dise effectivement d'ici, je sais pas, 2023, 24, 25, on fait quelque chose de progressif.
Le gouvernement, il aime bien engager les gouvernements suivants, mais c'est comme
surtout,
sur la...
Et surtout, ce qui serait aberrant, c'est si une taxe était créée, qu'elle ne soit pas affectée à la recherche, par exemple. Parce que le sujet, c'est pas de dire arrêtez tous de prendre l'avion, c'est de dire est-ce qu'il y a des moyens de faire des avions.
Le gouvernement, il aime bien engager les gouvernements suivants. C'est-à-dire, c'est comme sur la loi recherche, il dit j'investis 25 milliards, sauf qu'en fait, qu'on se rend compte que le gros de l'investissement, il est dans 10 ans, c'est-à-dire quand il sera plus là, alors qu'en 2021-2022, il n'y a rien du tout. C'est la même chose sur les terrasses chauffées, on dit oui, on va le faire à partir de 2022. Si vous voulez, il y a un moment, alors vous dites c'est pas cohérent de faire une aide et de faire payer une taxe, mais dans ce cas-là, vous voulez exonérer d'impôt sur le revenu les salariés de l'aéronautique. Enfin, vous voyez, il y a d'un côté des taxes qui taxent tous les secteurs de la même façon, l'impôt sur le revenu, la taxe carbone, cette fois-ci en fonction de nos émissions carbone, et par ailleurs, il peut y avoir des plans sectoriels.
Mais Thomas, dès qu'on parle de taxes, je vous vois frétiller sur votre chaise. Je vous présente. C'est, on peut rire un peu quand même. Ce que je vous dis, c'est si on crée des taxes, au minimum qu'elles soient dirigées vers des investissements.
Mais vous, dès qu'on vous dit qu'on va augmenter le prix des classes affaires, ça vous fait paniquer.
Allez, on en reste là, messieurs.
Vous avez le dernier mot, vous avez un point.
Et vous finissez dans le couloir, si vous le souhaitez. Merci à tous les deux, Thomas Piketty, Dominique Seux, rendez-vous vendredi prochain.